des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une rencontre au sommet autour de l'Amérique et ses excès, l'Amérique et ses fantasmes, l'Amérique et ses héroïnes aussi. Entre celui qui est certainement le plus américain des écrivains français, je sais pas si ça va lui plaire, Philippe Djian, qui fait paraître son nouveau roman À l'aube, c'est situé à Nantucket sur la côte Est, et en face de lui le nouveau phénomène littéraire de l'Amérique, Gabriel Tallent, qui avec son premier roman My Absolute Darling, encensé par Stephen King ou Kevin Powers, s'est imposé comme la révélation littéraire de 2017. Bonjour Gabriel Tallent.
Hello.
Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir.
Oui. Ah, vous parlez français,
Gabriel. But I try.
Non, mais j'essaye.
Alors, je salue Michel Zlotowski, qui sera votre interprète aujourd'hui. Bonjour, Michel.
Bonjour, Christophe.
C'est plaisir de vous entendre. Le terme de chef-d'œuvre est bien trop galvaudé, mais il ne fait aucun doute que My Absolute Darling en est un. C'est signé Stephen King, c'est au sujet de votre livre, Gabriel Tallent, je le disais. Il vient de sortir en France chez Gallmeister, il est traduit par Laura Derajinski. C'est une histoire terrible, l'histoire de Julia, alias Turtle, 14 ans. Turtle comme la tortue, elle vit avec son père charismatique et violent dans les bois, sur la côte ouest des États-Unis. Qu'elle arpente avec des fusils et différentes armes dont son père, Martin, lui a appris le maniement. Turtle, je le disais, comme une tortue, animal à carapace. Carapace que la jeune fille a dû se fabriquer. Elle fait d'ailleurs en sorte que personne ne puisse la percer, cette carapace, notamment au collège, où l'on s'inquiète pour son avenir. Turtle est sauvage, il faut dire qu'elle est abusée par ce père qui lui fait endurer le pire. Jusqu'à ce que cette route solitaire l'amène à rencontrer deux garçons, dont Jacob, avec lequel elle se lie, avec lequel elle décide d'échapper à ce père armé et incestueux pour faire l'épreuve de la liberté. My Absolute Darling est un livre brutal, dérangeant, mais c'est aussi paradoxalement un livre d'une grande beauté, notamment les descriptions que vous faites de cette nature qui emprisonne dans sa richesse, dans son humidité aussi, les rêves et le corps de Turtle. Et de ce père, solide comme un roc et fêlé comme un monstre. C'est un roman aussi qui nous offre un portrait extrêmement violent d'une Amérique où l'on se replie sur la nature et où l'on se méfie des hommes contre lesquels il faut s'armer. Vous avez mis 8 ans, Gabriel Tallent, pour écrire ce livre. C'est votre premier roman. C'est aussi un portrait de l'Amérique que vous avez voulu donner à travers Turtle, à travers Martin, à travers ces survivalistes qui préfèrent les bois à la civilisation.
It isn't for me a portrait of America because
ce n'est pas pour moi un portrait de l'Amérique. Parce que le projet n'est pas de capturer tout, de capturer la nation ou de raconter une allégorie politique. Le but est de parler avec force et esprit et attention l'histoire d'une jeune femme précise. Et il faut abandonner toutes les autres inquiétudes, toutes les autres questions et de se concentrer sur ça. Et si on peut faire rentrer d'autres sujets, d'accord. Mais sinon, on coupe, on élague.
Je pensais à la question des survivalistes qui se développent aux États-Unis. Il y a toute une tradition littéraire aussi. C'est pour ça que je parlais d'un portrait de l'Amérique en dehors de cette jeune fille-là. Est-ce que cette jeune fille-là, elle n'incarne pas aussi une Amérique peut-être un peu moins rêvée que celle qu'on nous présente d'habitude ?
I think that Turtle and Martin represent an America that is giving up on the American dream.
We represent une génération qui ont abandonné le rêve américain. On arrive dans un à la fin d'un exceptionnalisme américain et il y a une terrible tentation pour abandonner l'État. Abandonner la politique. Nous pensons que nous ne contrôlons plus le marécage de Washington, qu'on ne peut plus le ramener à vraiment ce qu'il doit être. Et la tendance, c'est que tout va s'écrouler et de s'occuper de soi-même à domicile. Je crois que c'est injuste. Il faut penser communauté, il faut penser militantisme, activisme, mais le désespoir, c'est quelque chose qu'il faut traiter.
Ça vous parle, Philippe Djian, ce que vient de dire Gabriel Tallent ?
Beaucoup de choses dans son livre me parlent. Ils n'ont pas du tout la même manière de vivre et de voir le monde que nous. Parce que d'un seul coup, c'est des dimensions complètement différentes. Le rapport à la nature, ça peut paraître un peu compliqué d'évoquer des survivalistes dans la Beauce ou dans la Creuse.
Ça ferait un bon roman, Philippe.
Bah, je vais essayer, mais ouais. Ça va être un peu compliqué. Non, non, mais je comprends ça et en même temps, j'ai été très, très surpris parce que je me méfie toujours un peu de ces gens qui, quand ils écrivent des livres, se plongent dans Wikipédia ou je sais pas quoi pour aller parler botanique ou pour aller parler... Or, lui, ce qui fait que j'ai trouvé vraiment très beau et qui fait que j'ai très rapidement adhéré à cette manière de présenter la nature, c'est que jamais il donne un nom de plante un peu particulier sans donner un tout petit détail qui fait que, ah ouais, il n'est pas en train de me parler de n'importe quoi, il est en train de me parler de cette fleur précisément.
Il est en dehors de Wikipédia, oui.
Oui, c'était très étonnant pour moi parce que tous les ans, c'est vrai qu'on reçoit sur la tête ce nouveau grand écrivain américain. C'est souvent un best-seller et c'est souvent mérité parce qu'ils le font bien. Et là, je me suis dit, bon, je me suis installé, je vais lire donc le nouveau best-seller. Or, il se trouve que d'un seul coup, ça devient très, très original, très dur, très violent. C'est d'une écriture qui, moi, me parle beaucoup parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de recherche dans ce qu'il fait. C'est poignant, les personnages sont d'autant plus étonnants que tout à l'heure, on a fait allusion à un père qui abusait sa fille, mais en fait, il se trouve que c'est un drôle de gars, qui est un type hyper violent, qui fait des trucs, vous verrez, je ne vais pas vous raconter, mais et qui en même temps est un super intellectuel. Il lit des trucs incroyables, Exactement. Et chez lui, c'est une écurie, quoi. Donc, tout est étonnant et tout est hyper bien fait.
Bel hommage, Gabriel Talente, de Philippe Djian à My Absolute Darling.
J'ai si reconnaissant.
Alors, quand je vous présentais tout à l'heure, je disais le Philippe Djian le plus américain des écrivains français, c'est quelque chose qui vous fait plaisir ou au fond vous en avez marre quand vous dites ça?
Je pense que je suis passé par différents stades, ça a dû me faire plaisir à un moment, ça m'a ennuyé à d'autres et maintenant je m'en fous. Donc, pour moi c'est un compliment, je pense que c'est des gens qui se sont débarrassés de certaines manières d'écrire qui dans nos pays européens, la vieille Europe, ont encore tendance à s'accrocher à la littérature du 19e. Moi je pense qu'il faut essayer de faire autre chose.
Comment d'ailleurs on pourrait définir votre rapport à l'Amérique, Philippe Djian? C'est une fascination d'écrivain. Comment vous l'avez découvert d'abord l'Amérique?
C'est les écrivains, bien sûr. Quand j'avais 20 ans et que je lisais Hemingway, Kerouac, Faulkner, tous ces gens-là, évidemment que j'avais pas du tout envie de vivre dans un Paris qui était dirigé par un vieux général. Je veux dire, autour de moi, tout me paraissait tellement ennuyeux et moche. Je veux dire, moi, dès que je voulais écouter de la musique, il fallait que je me branche sur une émission qui passait le soir. Il n'y avait pas les imports, tout ça, ça n'existait pas. Donc, il fallait vraiment vouloir se sortir de cette culture ennuyeuse qu'on connaissait en France. Et essayer de voir ce qui se passait là-bas, parce que tout se passait là-bas.
Le vieux général a joué un rôle quand même, vous n'en pouviez plus de le voir en fait.
Même pas, je pense même que je ne savais même pas, quand j'avais 16 ans ou 17 ans, je ne savais même pas ce qu'il proposait comme politique, ça ne m'intéressait pas. C'était cette image, il y avait le général, mais les flics dans la rue, c'était des types qui étaient à bicyclette avec des espèces de képis, c'était ridicule pour nous qui écoutions et qui découvrions déjà les sirènes de police. Et il y avait la littérature, mais il y avait aussi le cinéma, il y avait la musique, il y avait la mode, il y avait tout là-bas. Donc, je me demande aujourd'hui comment j'aurais pu passer à côté de ça.
Ouais, de l'Amérique. Alors, c'est en classe de seconde que votre professeur de français, un dénommé Belvard, fait naître en vous la passion pour la musique et la littérature. C'est la nuit, dans une petite guérite d'autoroute, que vous avez rédigé votre premier recueil de nouvelles, 50 contre 1. Depuis, il y a eu du chemin. Combien 29 livres. Évidemment, 37 2 le matin, adapté au cinéma par Jean-Luc Benex, avec prix interallié. Et puis le film Elle, de Paul Verhoeven. L'un des films les plus remuants, juste un peu un Absolute Darling de 2016 avec une femme plus âgée qui se lie avec son agresseur, c'était Isabelle Huppert, l'actrice. Vous avez quand même trouvé entre-temps le temps d'écrire avec À l'aube, il paraît chez Gallimard. L'héroïne de votre roman est plus âgée que celle de Gabriel Talent, elle se nomme Joan. Elle vient de perdre ses deux parents dans un accident et retourne vivre dans la maison familiale pour s'occuper de son frère qui est malade, enfin autiste on dirait il s'appelle Marlon. Sur la côte Est, alors on était côte Ouest avec Gabriel Talent, on est dans la côte Est chez vous, sur la côte Est, à la campagne, en bord de mer aussi. Elle doit en plus assurer un double travail auprès de Dora, une amie de ses parents, qui tient à la fois une boutique de vêtements vintage et un réseau de call girls dont fait partie Joanne. Marion et elle se trouvent rapidement aux prises avec Howard, un homme autrefois proche de leurs parents mais dont les intentions paraissent assez douteuses. L'incipit du roman, comme son dénouement, se déroule de nuit, témoigne de la grande noirceur de ce roman. Au fond, l'aube évoquée dans le titre, c'est ironique ?
C'est pas ironique, c'est peut-être une manière de dire « j'éteins pas la lumière complètement ». C'est pas ironique, c'est plutôt... L'idée, c'était d'essayer de commencer une vraie histoire, comme un polar, un truc un peu policier, et d'aller voir après ce qui se passait. Et on se rend compte qu'en fait, ce qui est important là-dedans, c'est ni l'argent, ni les événements en particulier, mais le lien qui se noue entre ce garçon et cette fille, qui sont frères et sœurs, mais qui ont grandi pas l'un avec l'autre. Donc il y a 15 ans d'écart entre eux. Et je trouvais que c'était ça qui était intéressant. Et en même temps, pour cette jeune femme qui, d'un seul coup, à 18 ans, découvre qu'en fait, on peut gagner de l'argent en vendant son corps, s'aperçoit que ça ne va pas nous amener très loin, ce truc-là.
Gabriel Talent, quand on voit la noirceur de votre livre, My Absolute Darling, quand on voit les livres que l'Amérique produit en ce moment ou a produit ces dernières années, je pense à Suck One Island, par exemple, chez Gallmeister, comme le vôtre, ou le livre de Colson Whitehead, Underground Railroad. Si on regarde le cinéma, Suburbicon, le dernier film de George Clooney, ou même le dernier film de Spielberg qui montre une Amérique obligée de se réfugier dans le virtuel tellement la vie réelle est horrible, avec beaucoup de violence, avec beaucoup de disparités aussi économiques. On se dit, est-ce que ce sont les écrivains ou les créateurs qui exagèrent, ou est-ce que vraiment l'Amérique est en train de mal tourner ?
I thought it was interesting in your 20s, Philip, you were reading Hemingway. In my 20s, I was reading Proust.
Je suis très intéressé par le fait que vous, Philippe, à 20 ans, vous lisiez Hemingway, Faulkner, et moi, à 20 ans, je lisais Simone de Beauvoir et Proust. Ça m'intéressait d'entendre ça.
I think we try and grapple very seriously with the darkness, but in any
de se mesurer de façon très sérieuse avec le côté sombre. Mais à chaque époque, on peut trouver les livres qui expliquent les erreurs du temps. Et par exemple, il y a plusieurs livres qui peuvent être comme la critique d'une époque. La compassion commence avec la reconnaissance du côté sombre et de la souffrance. Et ne pas s'en rendre compte, c'est ne rien faire.
Et sur cette Amérique dont je parlais, qui semble, en tout cas quand on lit de la littérature américaine aujourd'hui, évidemment je ne généralise pas, il y a une grande variété, mais quand on regarde un certain nombre de films, toute cette tendance aussi post-apocalyptique ou pré-apocalyptique, on se dit, est-ce que c'est une anticipation finalement des créateurs, qu'ils soient cinéastes ou romanciers, ou est-ce que cette Amérique telle qu'on la voit aujourd'hui, elle vous inquiète en même temps qu'elle vous inspire, Gabriel Talent ? Est-ce que vous êtes inquiet par ce pays qui est le vôtre quand même ?
I am worried by my country.
Oui, je suis inquiet de mon pays. Je crois que l'intérêt dans ces films apocalyptiques et dans ces livres, c'est pas de l'anticipation, c'est une expression de colère pour véritablement ce nœud de problèmes, comme si ça allait mener à aucune solution, comme si la société était devenue tellement stratifiée, tellement dans des tranchées qu'il n'y a pas d'autre solution que l'effondrement. C'est une expression du désespoir et ça m'inquiète. Je crois qu'il faut raconter des histoires de résistance et non pas raconter des histoires de désespoir.
On a énormément parlé des armes à feu avec cette jeunesse américaine qui s'est levée après un énième massacre. La maison et l'existence de Turtle dans votre livre, My Absolute Darling, sont habitées par la présence des armes à feu. Est-ce que ça vous a inspiré cette situation de grande insécurité liée à la surconsommation d'armes à feu aux États-Unis ?
I'm deeply concerned and I think that Les étudiants de Parkland,
c'est un excellent exemple parce que ces jeunes doivent avoir le droit de protester sans être attaqués, sans être harcelés, quelle que soit la façon que vous avez de penser aux armes. Ce droit de porter des armes aux États-Unis, c'est aussi le droit de manifester. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et si on permet à ces étudiants d'être harcelés, alors on a perdu tout ce pourquoi on a le droit de porter des armes. On a perdu la bataille de la politique parce qu'on a perdu la bataille de l'éducation. Et alors à ce moment-là, nos armes protègent quoi si nos étudiants ne peuvent plus manifester?
Juste
un petit mot là,
quelque
chose qu'on n'évoque pas trop et que j'ai retrouvé dans le livre de Gabriel, cette espèce de fascination incroyable pour les armes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, je trouve. Et cette petite fille de 14 ans, qui est tout le temps, toute la journée, en train de démonter complètement, pièce par pièce, son truc, ils finissent par nous faire aimer les armes. C'est ça qui est terrible. Et je pense que...
Le style de Gabriel Talan, peut-être aussi, la façon dont il découpe, il montre aussi tous ces mécanismes.
Avec les couteaux, avec tout ça, et aussi cette maison de fous furieux, où elle est obligée de rentrer et puis de faire comme ceux qui s'entraînent, les policiers qui s'entraînent contre des éventuels attentats. Elle tire sur des cibles chez elle. Ça, je crois que c'est... Pour nous, c'est du folklore. On ne connaît pas ça. Mais c'est, je crois que c'est beaucoup américain. Plus important pour eux.
Il y a un autre point de comparaison assez évident entre vos deux romans, c'est la présence des femmes, en fait, que ce soit vraiment des héroïnes, des femmes ou des jeunes filles, hein, pour Turtle, que son père, d'ailleurs, considère comme une femme, alors qu'elle a 14 ans, c'est vraiment une jeune fille. Ces deux femmes sont très différentes, leur situation également. L'une est marginale et solitaire, enfermée dans ce carcan très violent, incestueux, hein, que lui impose son père. L'autre est en proie aux difficultés, disons, apparemment banales du quotidien. Elle tente de s'intégrer malgré, justement, cette double vie qui est connue de tous, sauf de son frère. Mais elles évoluent toutes les deux dans une sorte de huis clos familial, une sorte de microcosme avec lequel elles entretiennent une relation très ambiguë, à la fois de répulsion, mais aussi d'attirance. Est-ce que le fait de choisir une héroïne dans un roman de 2017-2018, en tout cas du 21e siècle, aujourd'hui, bien avant le fait qu'on nous parle de certaines pratiques hollywoodiennes, de harcèlement et de harcèlement plus général des femmes dans la société, est-ce que le fait de choisir une héroïne, c'est pour vous une façon de porter le fer dans une société américaine, puisque Philippe Djian, vous parlez de l'Amérique, dont le président ne semble pas avoir une très haute idée des femmes, et dont vous sentez peut-être comme écrivain que ce sont des sociétés qui se patriarcalisent?
Je vais répondre complètement à côté de votre question, parce que j'étais en train de me demander... Je pense qu'en ce moment, je me sers de femme comme héroïne, parce que ça me met dans une autre position pour regarder le monde. J'ai l'impression que quand l'héroïne est une femme, je vois le monde différemment que quand je prends comme jeu le côté masculin. Parce que je suis tellement dans le côté masculin, je crois que je ne vois pas bien le monde.
Femmes, mais ce sont des Américaines que vous choisissez. Vous auriez pu choisir, parler des survivalistes de la Beauce, vous auriez pu choisir une Beauceronne. Or, vous avez choisi quelqu'un qui vit du côté de Nantucket.
Je pense que elle pourrait très bien être parisienne et aller au bord de... Là, c'est plutôt une question de paysage qui fait que d'un seul coup, j'ai besoin d'avoir une certaine... La taille du territoire, j'ai besoin que ce soit un peu grand, j'ai besoin que les maisons puissent ne pas être collées les unes aux autres comme en Europe. Puis je connais Boston et en même temps, on m'avait parlé, j'en avais parlé avec Verhoeven pendant un long moment puisque O devait se tourner aux États-Unis. Donc on a longuement parlé de où ça pouvait se passer et tout ça. Puis je pense que quand je me suis mis à écrire le livre, ça m'est resté, je me suis dit pourquoi pas parler de Boston.
Gabriel Talan, vous avez choisi justement comme héroïne une adolescente, Turtle, qui vit donc avec son père dans cette maison envahie par les animaux, au milieu des bois, pas très loin de la mer. Est-ce que le fait, j'ai posé la même question qu'à Philippe, le fait de choisir une héroïne comme vous, est-ce que c'est aussi une arme pour vous pour parler de cette société américaine dont on sent qu'elle se patriarcalise? Je ne sais pas comment Michel va traduire.
I think the word pick is troubling because,
je crois que le mot choisir est un petit peu problématique parce qu'on commence à écrire. Et moi, j'ai commencé par un bouquin complètement différent avec toute une distribution de personnages. Et Turtle était vraiment à la périphérie du livre. Et on sait souvent que les survivalistes sont violents, mais ils sont loin de nous. On ne connaît pas toute leur histoire. Donc j'écrivais, j'ai commencé à écrire comme ça. Et j'ai été vraiment troublé par ça. Quelque chose qui ne va pas. Et en fait, je me suis dit qu'elle devrait attirer toute l'attention du roman, Turtle, ce personnage. Et j'ai tout sorti et j'ai commencé à raconter à nouveau, à raconter son histoire de façon sérieuse. Oui, c'est une très jeune fille, très jeune femme. Et en tant qu'homme, moi j'ai un point de vue différent sur la violence au cours des premières années de ma vie. Et aussi un point de vue différent sur le patriarcat. Aucun écrivain ne peut raconter toute l'histoire. Mais en traversant cette histoire de genre, en parlant des femmes que j'ai connues et n'étant pas une femme, je sais que certaines choses sur la violence sont vraies. Et je voulais raconter ces vraies choses, mais ce n'est pas la seule histoire vraie qui peut être racontée là-dessus.
Juste pour qu'on comprenne bien, au départ, My Absolute Darling, enfin ce qu'était My Absolute Darling, disait il y avait toute une galerie de personnages, c'était moins... Vous avez élagué pour donner toute sa puissance à Turtle ?
Yes, that's absolutely
right.
Oui,
c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
J'ai commencé
à écrire un roman sur la destruction de l'environnement.
Mais Turtle et
les dommages qui avaient été faits à Turtle étaient plus importants que toute idée que j'avais précédemment. Toute autre idée sur l'environnement et sur les manifestations, c'était rien à côté de la douleur éprouvée par Turtle.
Vous avez été élevé par deux femmes, Gabrielle Talon, j'ai lu ça.
Yes, that's true.
Oui, c'est exact.
Donc votre maman et la compagne.
Yes, Gloria and Elizabeth, my two moms.
Gloria et Elizabeth sont mes deux mamans.
Et donc, ça vous a donné, vous pensez, pour votre, peut-être votre métier, votre futur métier d'écrivain, un autre regard, justement, sur la vie?
I think all you need are two parents who just love the hell out of you.
Ce dont on a besoin, c'est deux parents qui vous aiment. Je crois que la compassion
is less limited than we sometimes
est moins limitée
imagine.
Qu'on l'imagine souvent. Ça nous sauverait beaucoup en voyant les gens que nous rencontrons, les expériences de vie qui nous font sortir de nos petites expériences étriquées. Le fait d'être élevé par deux mères, je ne pense pas que ça m'ait donné un avantage quelconque pour l'écriture, et ça ne m'a donné aucun désavantage non plus.
Je me souviens que Philippe, c'était dans O, je crois, ou c'était dans Marlène, cette scène où vous décrivez Marlène qui mettait ses bas scintillants, etc. Et vous étiez venu dans cette émission et en fait, c'est comme si mentalement, l'écrivain aussi trouvait, rien qu'en décrivant justement ces mouvements extrêmement sensuels, ces mouvements de femme, un homme porte mais rarement des bas, qui suffisaient finalement à vous faire basculer dans une autre perception.
Ben, il mettait le pied dans un autre monde et il voyait le monde, c'est un autre miroir qu'on lui tendait.
Oui, c'était un homme, hein, c'est ça. Ouais.
C'est un homme, et quand il se déguise en femme, il comprenait même le désir des hommes et comment s'en servir. Donc,
comment vous faites-vous comme écrivain pour vous mettre dans la psyché d'une femme?
Je ne sais pas, je ne suis même pas sûr de me mettre... C'est comme le Canada Dry, on a l'impression que je suis dans la psyché d'une femme, mais je ne connais pas la psyché d'une femme. J'essaye de me demander comment moi je réagirais si jamais j'étais une femme, et en les connaissant un petit peu, ça m'aide. Mais je ne peux pas, à aucun moment, prétendre que je me mets dans la psyché d'une femme. Voilà. Ce n'est pas possible.
Le fameux rêve de Tirésias, qui avait eu la chance d'être un homme et être une femme. Voilà.
Il avait de la chance.
Et à qui on posait toujours la question, qui a le plus de plaisir entre l'homme et la femme? Lui pouvait répondre. On continue avec vous, Gabrielle Talent, et vous, Philippe Jean. On écoute d'abord le choix musical de Gabrielle Talent, l'auteur de My Absolute Darling, c'est chez Gallmeister. Come As You Are de Nirvana.
As you are, as I want you to be, as a friend, as
Philippe Djian voulait parler pendant Nirvana. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Philippe Djian ?
Ce livre, au niveau de la langue...
My Absolute Darling, voilà, ouais. De Gabriel Tallent.
Au niveau de la
Talent.
Langue, ce qu'il fait, par exemple, avec le monologue intérieur chez cette croquette,
oui.
C'est super beau. Parce qu'en même temps, on pourrait dire, si on était encore des gardiens du temple, mais il y a les répétitions, mais il y a nananana... Et ça fonctionne non seulement dans la phrase, mais je ne sais pas si vous avez vu, oui bien sûr que vous avez vu, comme tous les matins, elle lui lance de la même manière sa bouteille de bière pendant qu'elle prend un œuf, qu'elle le gobe.
Exactement.
Et on vous dirait, bah, attendez, tu l'as déjà dit, ça c'est déjà fait. Mais, et c'est cet art, comment se servir même des défauts de la langue pour en faire quelque chose d'encore plus beau.
Gabriel Tallent, Philippe Djian, voyez, il vous a très très bien lu, hein. Belles observations, très précises. Sur cette répétition, c'est vrai qu'il y a des rituels au fond entre Turtle et Croquette. Alors moi, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus d'abord. D'abord, question rituelle, pourquoi Nirvana, Come As You Are ? Pourquoi ce choix musical, Gabriel Tallent ?
I thought a lot about what music to use. There's a number of artists that I really like.
La musique à utiliser parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'aime.
Nirvana is meaningful to me because there's so much pain in that music.
Ça a un sens pour moi parce qu'il y a tellement de douleur dans cette musique.
And it's very much of the Pacific Northwest. It's culturally very close to how I grew up.
Très très proche du lieu où j'ai grandi, and, c'est la côte pacifique, la côte ouest des États-Unis. Et à part l'admiration, c'est pas une chanson d'amour. Les paroles sont un peu problématiques pour ce livre. Donc j'aime bien les Black Keys et beaucoup des paroles étaient problématiques dans ce contexte.
Je rappelle, vous êtes l'auteur de My Absolute Darling, donc qui est publié chez Gallmeister, qui est traduit de l'américain par Laura Derajinski. C'est votre premier roman phénomène aux États-Unis qui raconte la drôle de vie de Turtle, une fille de 14 ans qui vit avec son père survivant dans les bois, dans une cabane où, dans laquelle on voit entrer des belettes, des rats, toute la faune environnante. Beaucoup d'armes dans cette maison. D'ailleurs, Turtle en connaît le maniement. Philippe Djian soulignait la façon qu'elle a de les démonter, de remonter les différentes armes à feu. Elle est violée par ce père qui s'appelle Martin, qui est assez, vous le soulignez, d'ailleurs Philippe Djian, très cultivé et intellectuel, mais très très violent, et qui est persuadé qu'il faut se préparer à une menace et donc apprendre à se défendre. La question que je voulais vous poser, Gabriel Tallent, d'abord, c'est qu'il y a un jeu sur les noms. Elle s'appelle Julia, mais on l'appelle Turtle. Mais son père l'appelle Croquette. Alors, je ne sais pas comment Croquette est...
Kibble. Cat food.
Voilà, cat food.
C'est la nourriture pour chat.
Pourquoi ce jeu sur les différentes identités, finalement Elle a autant de noms que d'interlocuteurs qui s'adressent à elle.
Turtle's identity is contested. You know, the project is for her to fight for herself,
projet,
for her to fight for her soul.
Elle doit trouver... qui elle est, elle doit récupérer son arme. Et une façon de le dire, c'est en lui donnant d'autres noms. En fait, son père l'appelle Croquette parce qu'elle a failli être mangée par un puma. Son père est incroyablement jaloux de ce puma qui aurait pu l'enlever, la prendre pour lui. C'est incroyable l'idée qu'un puma aurait pu être son père naturel. Il y a une jalousie entre le père et ce puma, comme si ce puma pourrait l'emporter.
Oui. D'autant que le puma en question, le père le rêve qu'il viole sa propre femme. Quoi.
Exactement, et puis considérer que la paternité est liée à la dévoration de l'enfant, c'est-à-dire très mythologique.
Yes, yeah, I think that where I grew up, we had a tremendous amount of local mythology.
Il y avait beaucoup de mythologie locale. Il y avait beaucoup d'histoires de fantômes. Et ça fait partie de tout ça. Donc lui, il l'appelle Croquette pour représenter ce conflit comme du mépris aussi. Mais en fait, le fait que ça rappelle le fait qu'elle aurait pu être dévorée par un puma. Et voilà, elle dit. Non, moi je suis pas Croquette, je suis Turtle. Et pour moi, pour elle en tout cas, les tortues sont des animaux extrêmement mystérieux, très difficiles à trouver, qui se cachent, mystiques d'une certaine manière. Et il y a des valeurs là qui sont importantes pour elle, et ça lui donne une vision différente d'elle-même, une vision différente de celle qu'a son père d'elle-même. Et la lutte, c'est contrôler qui elle est.
Alors, vous avez été vous-même, je crois, passionné d'alpinisme, Gabriel Talent, adepte aussi de ce qu'on appelle la wilderness hein, aux États-Unis, cette nature, cette sauvagerie naturelle à l'état pur. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, je voulais écrire une histoire sur le réchauffement climatique, sur l'idée que finalement l'homme est en train d'asservir le monde, est en train de tout perdre. Au fond, vous pensez un peu comme Martine, comme le héros de ce livre, qui est persuadé que l'homme est allé trop loin, qu'on peut plus rien faire et que il faut en arriver à des finalement à des actions limites quoi pour tenter de résister.
I think that the environmental problems that we face,
le problème environnemental auquel on fait face est vraiment très inquiétant. Martin représente quelque chose de précis. Il a diagnostiqué un problème, mais il ne voit pas les solutions. On en parle précédemment. Il est dans le désespoir. Il désespère de l'Amérique. Il désespère de l'avenir. Moi, je suis intéressé par l'activisme, le militantisme, par l'espoir. Et là où il y a de la résistance, il y a des possibilités. Et je voudrais écrire sur des choses qui m'importent, sans écrire des manifestes. On écrit un projet qui vous passionne, que vous aimez. On est attiré par la réalité et pas simplement par des idées.
Est-ce qu'à son avis, Martin aurait voté Trump ?
Martin is a liberal, you know.
Martin est un libéral au sens américain du terme.
It's very hard to understand
très difficile
class in
de comprendre les classes dans cette partie de l'Amérique. Parce que la façon de penser la politique vient du sud, où il y a vraiment une opposition entre les gens des montagnes qui sont totalement incultes et les gens des vallées qui sont cultivés. Et moi, je viens d'un endroit où les gens sont cultivés, très avancés dans leurs idées, et leurs idées sur la société peuvent sembler être conservatrices comme idées. Mais ce n'est pas le cas. Mais pas pour les mêmes raisons, pas pour revenir dans le temps, mais plutôt pour créer une écotopie, pour créer une autre forme d'avenir, une autre forme de futur.
Philippe Jean vous demande ça parce que lui, dans son roman, dans À l'aube, les gens votent Bernie Sanders. Hein, et vous avez il y a cette phrase, quelqu'un qui vote pour Bernie Sanders ne peut pas être quelqu'un de tout à fait mauvais. Pourquoi en avoir fait finalement un monstre, Gabriel Talent, cet homme qui a diagnostiqué un harcèlement de la nature par l'homme, une volonté de tout conquérir, qui a diagnostiqué le réchauffement climatique, et lui qui est conscient de tout ça. Pourquoi avoir choisi d'en faire une figure du mal ?
Mais vous savez, les gens ne sont pas des monolithes. Hein. Quand on rencontre des monstres dans notre vie, c'est très difficile. Les monstres sont des gens, et quand vous prétendez que ce ne sont pas des gens, qu'ils n'ont pas d'histoire, qu'ils ne ressemblent pas à des hommes, qu'ils n'ont pas de raison, on les comprend mal. Je crois qu'on peut réfléchir de façon morale, on peut penser déontologie, mais il ne faut pas mentir sur les gens. Martin fait des choses mauvaises, mais bon, il faut écrire l'histoire de Martin. Pourquoi il fait ce qu'il fait ? C'est comme si je lui pardonnais. Non, je ne lui pardonne pas, mais dans le même temps, il ne faut pas mentir. Les gens sont compliqués dans la vie.
Vous avez choisi de faire de la fiction à partir de cette fille et de son père au milieu de leur bois, coupée quand même de la société, même si Turtle va à l'école. Qu'est-ce que vous avez voulu faire et selon vous, à quoi sert la fiction aujourd'hui au XXIe siècle ?
Il y a deux questions. Oui. Ce que moi je voulais faire et quelle est l'utilité de la fiction aujourd'hui ?
Pour lui,
pour moi, c'est difficile de dire ce que je voulais faire parce que c'est difficile de critiquer mon propre travail. On travaille comme des dingues pour le faire, on met tout ce qu'on a là-dedans, mais les livres ne sont pas des débats. Les gens doivent se perdre dans le livre. Les gens, c'est à eux de dire ce qu'est le livre. Donc moi, je suis très réticent à parler de ça. Mais mon espoir le plus profond, et je n'écris pas de la propagande, les livres sont sujets à des mauvaises interprétations, mais ce que j'espère le plus que le lecteur retirera, de tout à fait autre chose aussi, c'est la dignité de Turtle, son innocence. Parfois, on sent qu'on ne peut pas raconter l'histoire, que les gens souffrent tellement qu'on ne s'occupe plus d'eux, qu'ils ont été tellement blessés que l'histoire ne peut pas être racontée. Il faut le simplifier, il faut couper dans la violence. Mais moi je dis, on peut raconter l'histoire, on peut la raconter, on peut voir que Turtle est une innocente.
Une innocente ? En même temps, vous allez très loin, justement, avec cette innocence que vous, que certains de vos personnages broient, usent, une innocence à laquelle on fait du mal. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, comment faire pour ne pas aller trop loin ? Parce qu'il y avait des écueils, quand même, qu'il fallait éviter voyeurisme, complaisance, fascination morbide. Comment vous avez fait pour trouver, justement, ce juste ton ? Ne pas basculer dans l'excès ? Avec un thème aussi sensible que l'inceste et que l'emprise d'un père sur sa fille.
On l'écrit, et après on le lit, et vous analysez, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça fait du mal ? Mon espoir, c'est quand on montre le véritable héritage de la violence, de la façon dont on peut le comprendre, le sentir, on abolit le voyeurisme. Le voyeurisme, ça reste, quand vous restez sur le seuil et que vous voyez pas le reste, et quand vous pensez que la personne qui est molestée est un objet et pas un sujet, moi, je suis toujours dans la subjectivité pour voir l'horreur du mal qui est fait et le ressentir d'une telle façon que ça soit totalement intolérable.
Stevenson disait que aucun art ne peut concurrencer la vie, donc on ne s'amuse pas à essayer de faire comme. Mais la fiction vous permet justement du chaos complet qui est la vie à restructurer quelque chose qui peut vous faire raconter une histoire avec éventuellement une suite d'événements qui font que la psychologie, on la laisse de côté, elle revient après. Et lui, en fait, il fonctionne aussi pas mal comme ça. Toutes les horreurs qu'on peut lire et c'est plus qu'abominable, parce que le seul truc qu'il raconte un peu, c'est quand il demande à sa fille de se suspendre à une poutre et qu'il met un couteau sous elle. Mais là, on voit rien de terrible. Alors, c'est tellement plus terrible dans l'esprit de cette fille qui est tout le temps en train de se dire « je suis une connasse ». C'est assez terrible, quoi.
Le masochisme, effectivement, de Turtle.
Qui dit « je suis misogyne ».
Voilà, qui ajoute à la violence du père. Je vais lire deux extraits pour qu'on comprenne bien, justement. Ses jambes écartées laissent entrevoir une ouverture qui mène à l'obscurité de ses entrailles et qui représente pour lui la vérité de Turtle, elle en est convaincue. Il soulève ses cheveux par poignées entières, les pose sur l'oreiller afin de dévoiler sa nuque et il dit « Nom de Dieu ». D'une voix rocailleuse, il caresse du doigt les petites mèches rebelles. La gorge de Turtle repose sur l'oreiller, elle semble remplie de feuilles humides et parcheminées, comme s'il était une flaque froide en automne, imbibée d'eau grise, un goût de pain et de poivre, de feuilles de chêne et la saveur verte de l'herbe des prés. Il se croit en mesure de comprendre le corps de Turtle, et traîtreusement, c'est le cas. C'est extrêmement, extrêmement violent.
C'est beau, hein,
Gabriel Talent est très beau. Et c'est ça que, sur une méthode d'écriture, je voudrais qu'on comprenne comment vous avez fait, à quel dosage vous avez pensé. Ça fait 8 ans d'écriture, hein, ce livre, pour dire des choses aussi atroces. Qu'un père qui possède sexuellement sa fille, qui ne peut rien faire, qui ne peut pas lui échapper, et en même temps penser à la beauté constamment, à la nature, au parfum de la nature qui environne ce crime.
Pour moi, le projet portait surtout sur la façon dont on ressentait les choses. Qu'est-ce qu'on observe ? J'étais très intéressé par des corrélations quand un objet représente une émotion. Parce que je pense que ce sont des choses qui se produisent pour nous quand on est dans une grande douleur, quand on est dans une peur terrible, on se fascine par des détails, on est fasciné par des détails. Et dans les moments les plus durs et les plus terribles de ma vie, c'était des moments d'intense beauté aussi. Je crois qu'on peut accomplir beaucoup en parlant de l'esprit, en utilisant des détails esthétiques. Donc j'ai toujours essayé d'attaquer la complexité, la complication de la façon dont Turtle se sent et ressent les choses en se fixant sur un détail physique. Parce que on a tellement de moments difficiles quand on parle d'abus sexuels ou de viol, on tente de simplifier les émotions. Mais à ce moment-là, on laisse de côté les gens qui ont des impressions et des sentiments complexes en les laissant penser que ce sont des monstres, qu'ils sont seuls dans ce cas. Mais l'histoire, c'est raconter l'histoire de ces émotions compliquées et de raconter aussi l'innocence de la chose. Non, vous n'êtes pas les seuls. Regardez Turtle et pardonnez-lui. Et peut-être que vous allez vous voir et vous pardonner aussi d'une manière différente.
Et c'est ça aussi l'art de la fiction, hein,
Philippe Jean.
Le choix, quel est le détail qu'on choisit, et même dans les scènes les plus abominables, vous n'êtes pas obligé de choisir la plus terrible, mais vous devez choisir quelle est celle qui parle le plus. Mais
où est-ce que vous êtes allé puiser ça, Gabriel Talent? Martin ou Turtle, comment on leur donne vie à ces deux personnages-là?
Hard work and compassion.
Du boulot et de la compassion.
You write.
On écrit.
So easy. And you write and then you assess, you go through it and you say, I haven't gotten it right. This is not as difficult, this is not as real, this is not as complicated as a real person is.
Aussi compliqué qu'une véritable personne. Il faut y revenir. Il faut remplir la complexité, la complication. Il faut trouver les raisons. On écrit toujours avec plus de nuances. Il faut chercher les nuances chez les autres. Il faut être attentif à cela. Et en tant qu'écrivain de fiction, il faut faire attention aux détails que l'on écrit. On essaie de montrer pourquoi une personne est telle qu'elle est, ce qu'elle ressent. Et les gens, encore une fois, ne sont pas des monolithes. Ils ne sont pas monolithiques. Il faut décrire la façon dont ils sont en conflit avec eux-mêmes.
Martin,
c'est un type qui est assez qu'on peut reconnaître facilement. Là, d'où je viens, il y a un nombre énorme de gens qui sont passés par l'université, qui ont des idées brillantes sur la philosophie, sur la politique, mais ils ne font pas partie du système. Ils n'ont pas de pairs, P-A-R-S, qui les contredisent. Donc, ils ont une tendance à se radicaliser.
Vous les avez observés, en fait, ceux-là.
Yes, absolutely.
Bien sûr.
You know, they aren't hurting people usually.
Ils font pas de mal aux autres, hein, d'ordinaire, ça c'est exceptionnel.
An interest in philosophy was home territory to me. It was a recognizable person.
L'intérêt de Martin pour la philosophie était un terrain connu pour moi. J'ai bâti quelque chose sur des fondations, sur des bases très fortes.
On traverse les États-Unis, on va sur l'autre côte avec vous, Philippe Jean. Tout ce qu'il dit là sur cette méthode d'observation, vous qui êtes un écrivain français et qui choisissez un territoire américain, quelle est la raison profonde en fait? Qu'est-ce qui vous facilite la vie ou la complexifie, ou permet de jouer avec la fiction davantage quand c'est aux États-Unis plutôt qu'en France?
Je pense que c'est tout bêtement une question de liberté. Je vous parlais tout à l'heure de ces maisons qui sont les unes un peu à côté des autres, mais pas collées les unes aux autres, où on peut voir chez le voisin un petit peu plus loin. Souvent, en France et dans les pays d'Europe, les maisons sont l'une à côté de l'autre, et on ferme les volets, et il y a le petit jardin qui est entouré. Donc c'est peut-être plutôt une espèce de respiration que je cherche. C'est plutôt ça.
Que vous donne pas le territoire français,
par exemple. Vous savez, quand j'étais enfant, par exemple,
J'étais
parisien et mes parents avaient une petite maison à Orléans, du côté d'Orléans. Et je me souviens que c'était une expédition et c'était la nuit et on quittait Paris et on roulait dans la campagne et tout. C'est fini ça aujourd'hui. Donc je crois que j'étouffe de ce manque d'espace. Et en même temps, c'est retrouver un espace au niveau de la langue.
C'est-à-dire...
J'ai l'impression d'avoir plus de place pour essayer les choses, pour justement mettre en place des répétitions. Les répétitions, c'est un petit peu long quand même, quand la fameuse scène, il reprend 3 ou 4 fois qu'elle lance une bière à son père, et ça va jusqu'au moment où il lui dit « Papa, t'as pas besoin de m'amener à l'école », et lui dit « Si ». Et ils vont, et c'est une femme qui arrive avec son bus, et il y a les bruits des portes, et c'est une espèce de...
Là, vous parlez de My Absolute Darling, pour à l'aube, justement.
Ah, je parle pas du mien, là. J'en suis au 29e, moi, je vais aider plutôt les petits jeunes qui arrivent.
Il a besoin d'aide, Gabriel Talon. Bon, dans À l'aube, vous dressez, Philippe, dans le portrait d'une femme, Joanne, qui vient de perdre ses deux parents dans un accident et qui retourne vivre dans la maison familiale pour s'occuper de Marlon, qui est son frère autiste, donc sur la côte est, à Nantucket. Elle a un double travail. Elle travaille dans une boutique de vêtements vintage et dans un réseau de call girls avec Dora. Et très vite, en fait, il y a quelqu'un qui surgit, un certain Howard, autrefois proche des parents de Marlon et de Joan, qui étaient des activistes, qui arrive et qui veut fouiller dans la maison, on devine un secret. Ça commence souvent comme un polar chez vous. Il y a quand même ce petit code-là.
Ouais. Et puis l'idée, ce qui est toujours un peu amusant et intéressant pour un écrivain, c'est de pervertir un genre. On dit on commence comme du polar et on n'est pas dans le polar. Mais c'est aussi découvrir des territoires. C'est-à-dire que, par exemple, le territoire de Call Girl, c'est un autre territoire. Et le territoire de l'autisme, c'est encore un autre territoire. Ce qui la pousse même à une espèce d'extrême qui fait qu'à un moment, pour aller d'un territoire à un autre, des fois, il faut se priver du premier que vous quittez. Donc ça entraîne plein de choses. Mais cette envie et cette attirance pour un monde qu'on connaît pas et qui éventuellement pourrait vous apporter un peu plus de joie et de bonheur que celui qu'on connaît, je trouve que c'est un truc qui est très, très facilement partagé.
Vous vous amusez quand vous écrivez, Philippe Dion, on sent le territoire, on a l'impression, vous parliez de vous gamin d'ailleurs dans la voiture des parents.
Ouais.
C'est une façon de retrouver ça aussi, cette enfance joueuse que d'écrire?
C'est la liberté que je trouve dans l'écriture qui m'amuse. Ouais. C'est plutôt ça. Tout à l'heure, on parlait des répétitions, tout ça. C'est un vrai plaisir. Par exemple, les ellipses, c'est un vrai plaisir de travailler une ellipse. Par exemple, la réflexion que j'ai eue, c'était après avoir fait cette première partie qui est comme un polar. Qu'est-ce que je prends pour reprendre l'histoire plus loin? Eh ben, simplement l'idée de savoir est-ce que c'est une semaine après? Est-ce que c'est un mois après? Est-ce que c'est 6 mois après? Est-ce qu'on a envie de reprendre la patate un peu tiède, un peu chaude? Et tout ça, ça m'intéresse et ça m'amuse.
Alors la patate chaude, j'aimerais qu'on vous entende lire l'Incipit justement de À l'aube. La patate chaude, on la ressent.
Joanne se lavait les mains lorsqu'elle vit passer une ombre derrière la fenêtre. Ça ne dura qu'une fraction de seconde, mais elle eut un mouvement de recul. Marlon, dit-elle, il y a quelqu'un dehors. Elle leva les yeux sur lui. Il avait son casque sur les oreilles. La nuit était tombée depuis un moment, on n'y voyait plus rien. Elle alluma l'éclairage extérieur et jeta un coup d'œil autour de la maison. Tout était calme et tranquille. Elle finissait par douter de ce qu'elle avait vu. Moss, le chien, était sorti avec elle et il se tenait tranquillement à ses côtés. Elle pensa qu'elle avait dû rêver. Ce n'était qu'une ombre après tout.
Merci Philippe Dion. Alors j'ai lu quelque part quand même que vous étiez en train d'écrire un texte pour Isabelle Huppert. Un texte où il y avait une femme qui faisait la vaisselle, etc., et qui voyait une ombre dans le jardin. En fait, c'est ce texte-là qui est...
Oui, mais moi, je mélange tout. Alors, donc, des fois, je fais mon miel de tout. Donc, d'un seul coup, je reprends une image que j'ai eue et je m'en sers autrement. Mais c'est qu'est-ce que ça va m'amener? Est-ce que d'un seul coup, et j'ai trouvé que oui, cette manière de démarrer l'histoire m'intéressait parce qu'elle me parlait beaucoup. Et moi, j'essaie toujours, quand je commence un roman, de savoir est-ce que l'histoire m'appelle? Est-ce qu'elle me demande d'exister quelque part? Et elle me dit beaucoup de choses dès les premières phrases.
Alors là, il faut préciser, l'histoire m'appelle, qu'est-ce que ça veut dire, Philippe Dion?
Ça veut dire que l'histoire, c'est comme un espèce d'ectoplasme qui est dans les airs, comme ça, et qui m'appelle au secours, et qui me dit, ramène-moi sur Terre, reprends-moi et descends-moi sur Terre.
Donc il y a une mission de l'écrivain de ramener des histoires qui volent à la Terre, au lecteur.
Cette idée de vouloir raconter la vie tout en sachant qu'il ne faut pas essayer de s'approcher de la vie, mais au contraire s'en écarter par l'imaginaire. Et là, ça peut peut-être devenir intéressant.
Gabriel Talent, vous entendez donc Philippe Dion. Vous avez compris que c'est un écrivain français, mais qui place cette histoire-là. Il y en a eu d'autres, hein, d'ailleurs, aux États-Unis. Première question, qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'écrivain américain de voir un écrivain français aussi fasciné par les Américains? Parce que Proust, lui, ça le laisse froid. Flaubert aussi, d'ailleurs. Hein. Vous l'aviez
plus
dit Flaubert, dans Ardoise, hein, je me souviens.
Flaubert que Proust.
Voilà, Flaubert, Proust, ça l'intéresse pas. Qu'est-ce que ça vous fait de voir justement un écrivain français aussi fasciné par l'Amérique, plaçant ses histoires à l'Amérique? Et deuxième question, est-ce que pour vous aussi, une histoire, c'est cet ectoplasme dont parlait Philippe, qui vous appelle pour dire « écris-moi », quoi, c'est ça?
I like that about the ectoplasm.
J'aime bien l'histoire de l'ectoplasme.
People have spoken about stories that way since the very beginning.
On a parlé de ce genre de choses depuis le tout début.
Iliad begins sing muse.
Vous savez, les muses, je vais pas dire toute l'histoire des muses, hein, parce que ça serait un petit peu trop dur pour l'interprète. chante ma muse.
Voilà, la colère d'Achille.
Quiconque
parle de la narration de cette manière-là, on les laisse raconter telles qu'ils le veulent.
We need every perspective.
On a besoin de toutes les perspectives possibles. Quand quelqu'un vient en Amérique et écrit au sujet de l'Amérique, il voit des choses totalement différentes. Et c'est tout aussi intéressant, tout aussi valable, tout aussi profitable, tout aussi engageant. Ça m'émeut, ça m'impressionne. Est-ce que ça répond à votre question?
C'est parfait.
J'ai trouvé ça très, très intéressant.
On marque une petite pause, on écoute votre choix musical, Philippe Géant. Vous avez choisi un titre de Kodak Black, donc c'est un rappeur américain, vous en parlez hein, dans Allo. Et ça s'appelle Don't Wanna Breathe. On écoute.
You see, it's crazy, dog, because you get a nigga this emotion that I thought ain't even existing a nigga no more. See, like, I don't even wanna be if I can't be with you. I don't wanna live if I can't be with you. Shout it on. Shawty, I don't wanna see. If I ain't seeing you, shawty, I don't wanna live. If I can't be with you, shawty, I don't wanna wear. If I ain't breathing you, shawty, I don't wanna dream. If I can't see with you, shawty, I don't wanna see. If I ain't seeing you, shawty, I ain't seeing you. You know we made the news. You motivate me too. I'm fucking with you, boo. I'ma keep it funky with you, boo. When we make love, I ain't got my glove on. When we make love, I ain't got my thug on. Girl, you got me singing love songs. Where the fuck I get this love from? I got London on the beat. She like fucking on the beach. Girl, you fucking with a G. How did you end up with me? Boss, baby. You got me nailed to the cross, baby. You got a young nigga open. You got my nose wide open. You got Lakota in a moment. I was locked up sending you roses. And baby, when I ride, I wanna ride for you. And baby, when I die, I wanna die with you. Girl, you know I'ma keep it a stack like $1,000, boo. Girl, you know I'ma keep it a stack, I never lie to you. Ain't no point in living if I can't live my life with you. Girl, if you ain't right by my side, I don't know what I'ma do.
I don't wanna live if I can't be with you. Shawty, I don't wanna well. If I ain't breathing you.
Kodak Black, Don't Wanna Breathe. C'est le choix de Philippe Géant qui publie À l'aube, c'est son nouveau roman chez Gallimard. Kodak Black qui est cité hein, dans le texte. C'est la bande originale de Allo, la bande son que vous nous faites écouter.
Oui. Bah, c'est quelqu'un que j'écoute parce que je trouve qu'il renouvelle. J'en avais assez d'écouter comme chanson d'amour Ne me quitte pas. Et alors le volcan qui se ranime et tout ça, bon bah je voulais passer un petit peu à autre chose. Et je trouvais qu'il y a une espèce de brutalité dans les paroles et en même temps ce qui m'intéresse c'est l'espèce de scansion qui vient, ça devient comme un mantra un petit peu qui récite.
Comme la Turtle de Gabriel Talen, donc l'auteur de My Absolute Darling qui est en face de nous, votre Johan, votre personnage Philippe, s'est construit une carapace finalement, un rempart contre l'inquiétude que lui cause son frère, contre les vicissitudes de son activité de call girl aussi. Vous avez dit à propos des femmes, leur regard sur le monde m'attire et ça m'oblige à travailler de plus en plus la langue que j'emploie pour en parler. Dans ce livre, il y a une ponctuation nouvelle, c'est-à-dire que vous supprimez tout, vous nettoyez tout, les dialogues, il n'y a plus de tiret ni rien. C'est essentiel ce genre d'expérience formelle.
Bah, ça vient d'une réflexion que peut tout écrivain, quand il écrit une phrase, se demande est-ce que je mets une virgule, est-ce que j'en mets pas. Et si on poursuit un peu cette réflexion, c'est pourquoi je mets un point d'interrogation, pourquoi je mets chapitre premier, pourquoi je fais ça, pourquoi il y a un petit blanc avant. je me dis, mais si ça sert à rien, pourquoi on le fait ? Mmh. Et visuellement, j'aime bien cette idée qu'il n'y a plus de typographie. Par exemple, dans les ateliers d'écriture que j'anime un petit peu, il y en a beaucoup qui font des espèces d'inserts en italique ou qui font des trucs avec des lettres, des majuscules. Et j'essaie de leur dire, mais je ne suis pas contre, mais si ça ne sert à rien, c'est une faiblesse quelque part de se servir de la typo.
Pour terminer cette émission, et je me tourne aussi vers Gabriel Talent, vous êtes très impliqué, Philippe Djian, dans le cinéma. On a parlé de Elle, de Verhoeven, qui venait de O, votre roman. Là, vous aviez un nouveau projet avec Isabelle Huppert.
Mais c'est pas perdu.
Mais c'est important aussi, ce compagnonnage que vous avez avec le cinéma ?
C'est important de rencontrer des gens qui vous font avancer. Et j'ai trouvé que, par exemple, dans juste ce petit cadre du roman O, le travail d'Isabelle Huppert sur le film apportait quelque chose de plus au personnage.
Et à l'écrivain que vous êtes, ça apporte aussi ?
Bien sûr. C'est sur un autre plan, hein. Parce que je pense que de toute façon, les dialogues d'un roman sont pas faits pour être mis comme ça dans la bouche des personnages. Sinon, ça devient du théâtre. Et j'écris pas pour du théâtre. Donc, quelle est cette mélodie du monde qui nous entoure? Et je trouvais que justement, pour en revenir sur Gabriel, il y a une mélodie. Il y a un son de son Amérique. Et je suis toujours étonné quand je tombe sur le bon son.
Le bon son de l'Amérique, Gabriel Talent. Est-ce qu'il y a un projet de cinéma ? Est-ce que ça vous intéresse aussi, l'approche cinématographique, la transmutation en cinéma de ce My Absolute Darling ? Est-ce qu'on verra un...
I will personally not be involved in
non, moi, je ne serai pas impliqué personnellement pour transformer ça en scénario. Je ne connais pas beaucoup le cinéma. Je suis un lecteur. Je lis, je fais de l'alpinisme et je n'ai pas beaucoup de temps pour d'autres choses. Mais j'admire les gens qui le font. Et donc, si on trouve quelqu'un qui veut faire quelque chose... qui soit vraiment rude, qui soit dur, qui soit féministe et qui aimerait transformer ça en quelque chose d'artistique, je dirais oui. Mais moi, je ne serais pas inclus dans ce projet.
Donc il faut que ça soit rude et féministe, hein, vous l'avez dit, Gabriel Talent. Et il lève le poing en l'air. Voilà. Et Me Too, voilà, dit Philippe Djian. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Philippe Djian, À l'aube, c'est chez Gallimard. C'est votre nouveau roman. My Absolute Darling de Gabriel Talent, c'est chez Gallmeister, c'est traduit de l'américain par Laura Derajinski. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Et voilà, le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec la complicité de Naïd Lancio, Anne Pérez à la réalisation, Déborah Dagobert à la technique, Michel Zlotowski qui a interprété Gabriel Talent. Voilà, vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière illimitée sur franceculture.fr cette émission sur l'Amérique, sur les héroïnes, sur le féminisme aussi un peu.